Bonjour, c'est Pascal Saulière et c'est l'épisode 18 de ITcast du 25 septembre 2016. Aujourd'hui, je retrouve Arnaud et Stanislas pour un petit tour de l'actualité Windows, Azure et Office. Et vous saurez tout, notamment sur le mystère du Linux Microsoft. Dans une deuxième partie, je reçois Arnaud Jumelet, qui nous en dira un petit peu plus sur un livre blanc ou white paper fort intéressant qu'il vient de publier sur la sécurité et le contrôle de santé de Windows 10. Tout de suite, les infos de la quinzaine avec Arnaud et Stan. Bonjour à tous, je suis donc avec Stanislas et Arnaud. Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Stanislas, ça va bien ?
Très bien.
Vous êtes, je crois, de retour hein, d'un événement en province ?
De Bordeaux.
De Bordeaux. Tout s'est bien passé.
Très bien.
On a quelques sujets d'actualité qu'on va parcourir rapidement et puis j'aurai une deuxième partie après en fin de podcast sur un autre sujet. Donc sujet d'actualité rapide aujourd'hui. Commençons par les actualités Windows. D'abord pour parler de Windows RT. On avait promis une chose, c'est qu'il hérite un petit peu de quelques fonctionnalités de Windows 10, quelques toutes petites fonctionnalités de Windows 10 et puis c'est fait. Donc c'est enfin fait. Avec une petite mise à jour très discrète qui ne s'installe pas automatiquement sur Windows RT et qui, quand on va la chercher et qu'on l'installe, en fait, nous donne un menu démarrer. Un petit peu à la mode Windows 10. Alors, ça ne le transforme pas en Windows 10, hein, mais ça lui donne un petit côté cosmétique. Voilà. Donc, pour ceux qui sont allergiques à l'écran complet, comment on appelait cet écran, l'écran de démarrage, l'écran d'accueil. L'écran d'accueil avec les grosses icônes rectangulaires, on peut basculer au menu démarrer. Donc le numéro, c'est le 30-33-055, le numéro de la mise à jour, si vous voulez les repérer dans ce qui arrive par Windows Update. Pour ce qui est de Windows 10, hein, pas grand-chose de neuf cette quinzaine, à part deux nouvelles builds pour les Insiders, le programme Insider. Donc Windows 10 mobile qui passe en build 10.536. Ça faisait un petit moment qu'on attendait une mise à jour. Ça a été un petit peu compliqué. Il y a eu une double mise à jour à installer pour arriver dans cette build. Mais c'est fait, donc la 10.536. Et notamment, la grande nouvelle, c'est qu'elle rétablit des fonctionnalités qui avaient disparu dans la build précédente, notamment le hotspot Wi-Fi. Ça manquait. Donc maintenant, ça refonctionne. Et puis Windows 10 sur les PC, l'Insider Preview passe en build 10.547 avec de la couleur dans les barres de titres et ce genre de choses-là. Enfin bon, il y a d'autres petits détails de cet ordre-là. Donc ça avance doucement et, dans la direction de la future Current Branch d'ici quelques semaines. Voilà pour Windows. Sur le front d'Azure maintenant dans le cloud, Stan, je crois que tu as des nouvelles qui intéressent Azure Active Directory notamment.
Alors, pas mal effectivement de petites nouveautés côté Azure Active Directory, qui, comme vous le savez tous, est notre service d'identité dans le cloud, et service sur lequel s'appuient aujourd'hui d'autres services SaaS de type Office 365, Intune, CRM, etc. Donc, il y a trois grosses nouveautés qui sont apparues ce mois-ci. La première nouveauté, en fait, c'est l'arrivée très prochaine de ce qu'on appelle le Azure Active Directory Premium Dashboard, donc en version préliminaire aujourd'hui. Donc, comme son nom l'indique, c'est un tableau de bord qui va synthétiser en fait en une page, résumer globalement à peu près tout ce qui est activé, configuré ou en cours d'utilisation sur la partie Azure Active Directory Premium. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver en gros deux grandes catégories dans ce dashboard. Une première va concerner tout ce qui est la sécurité et un petit peu l'état de santé du service dans le cadre de l'entreprise. Mmh. Donc, par exemple, on va retrouver de manière très synthétique dans cette page le nombre d'utilisateurs qui ont eu des comportements anormaux sur la partie authentification, peut-être la personne qui essaie de s'authentifier à deux endroits différents du monde ou qui fait 15 erreurs de tentative avant d'arriver à se loguer, enfin des choses comme ça. Également, il y a un résumé de combien d'applications sont utilisées, combien d'applications exposées et accessibles via Azure Active Directory sont utilisées par les utilisateurs, combien il y a eu de resets de mots de passe en libre service, combien il y a eu de demandes d'enregistrement pour faire du libre service, donc un utilisateur qui dit ben, « moi je vais activer la fonctionnalité, et voici par exemple mes questions secrètes », et puis combien de groupes ont été gérés de manière en libre service. Voilà. Donc là, c'est la première grosse partie de ce dashboard. Et on a une deuxième partie du dashboard qui correspond à différents paramétrages et qui sont disponibles avec l'édition premium. Donc par exemple, on va avoir est-ce que certaines fonctionnalités ont été activées ou pas, comme les libres services, combien d'utilisateurs on leur a affecté la fonctionnalité du multifactor authentication, c'est-à-dire de pouvoir utiliser leur téléphone comme un facteur authentification additionnel, etc. Combien on a ajouté d'applications connectées à Azure Active Directory, etc. Voilà. Donc c'est un tableau de bord, un dashboard en anglais, et il permet effectivement d'avoir cette vue très synthétique de beaucoup de services qui sont en fait exposés dans Azure Active Directory, mais qui sont un petit peu disponibles dans différentes interfaces. Donc ça permet en fait de s'y retrouver et d'avoir une vue consolidée à l'instant T. Si tu as besoin de faire un rapport, par exemple, par rapport à des directeurs ou autres. Donc ça, c'est le premier, c'est la première grosse nouvelle sur la partie Active Directory, Azure Active Directory. Donc, on a également deux nouvelles éditions d'Azure Active Directory qui arrivent. Donc, jusqu'ici, on avait l'édition gratuite, basique et premium. On a donc deux nouvelles éditions qui sont pour des usages un peu particuliers. La première, c'est l'édition Azure Active Directory B2C, donc Business to Consumer. Donc, l'idée, en fait, c'est que chaque fois qu'il y a une application qu'on consomme sur Internet, sur du mobile ou sur du web, en général, on nous demande de créer une identité ou de consommer une identité. Donc, du coup, beaucoup de développeurs ou d'entreprises souvent réinventent la roue, c'est-à-dire qu'ils vont faire leur propre base d'identité, donc sous une base de données X, Y ou Z, et puis bah, du coup, chaque fois qu'on a l'identité, bah, on doit toujours faire face à des trucs genre la création de l'utilisateur, l'affectation de son mot de passe, le reset de son mot de passe, enfin, des choses comme ça, quoi. Et chaque fois, on réinvente la roue, et puis toutes ces opérations de gestion d'identité, elles n'ont pas réellement de valeur ajoutée par rapport en général au service ou l'application qui est exposée. Parce que c'est toujours la même chose. Une base de compte utilisateur, ça reste une base de compte utilisateur. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on va proposer avec Azure Active Directory B2C directement un service clé en main pour toutes les personnes qui veulent faire des applications mobiles ou web ou SaaS. Et plutôt que réinventer la roue pour gérer en gros de l'identité et être sûr que le service sera bien redondant, montré en charge, etc. En fait, c'est simplement nous qui allons l'assurer. Voilà. Donc du coup, on pourra se connecter à l'application B2C en utilisant les standards du web, hein, donc HOT2, OpenID, OData V3, voilà. Donc c'est du tout à fait classique, mais l'idée c'est vraiment d'accélérer les développements d'applications à destination du grand public, hein, B2C, Business Consumer, et puis de ne pas avoir à se poser trop la question, entre guillemets, de comment gérer un système d'identité. Là, on s'appuie sur des choses qui ont fait leur preuve. Hein. Je rappelle qu'on a à peu près aujourd'hui 6 millions d'organisations qui utilisent Active Directory, Azure Active Directory, et que ça représente un peu plus de 500 millions d'utilisateurs. Donc le système, il est éprouvé, et donc là, on le met, entre guillemets, on le fournit en tant que service pour être consommé par des applications dans vos applications. L'intérêt également, c'est que c'est complètement personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut complètement en masquer le visuel qui était très Microsoft d'Azure Active Directory, et simplement, ceux qui vont le consommer auront leur site web ou leur interface, et puis quand ils créeront un nouveau compte dans leur système, en fait, derrière, en sous-jacent, ce sera en fait un compte Azure Active Directory. Voilà, je ne sais pas si j'ai été bien clair sur le sujet.
Si, tout à fait.
Donc c'est plutôt assez cool. À retenir également, qui est, je pense, intéressant, qui peut intéresser particulièrement le monde des startups, ou tout développeur un peu indépendant qui potentiellement a une cible d'avoir plusieurs milliers, voire beaucoup plus d'utilisateurs, c'est que le modèle de facturation se fera effectivement à la consommation. Donc plus on utilise, plus ça coûte cher, entre guillemets, mais ce qui est intéressant, c'est que les 50 000 premiers utilisateurs sont gratuits.
D'accord, ce qui est déjà utiliser... pas mal pour démarrer. Donc,
exactement. Donc, le service, entre guillemets, est déjà prévu et peut déjà couvrir beaucoup, beaucoup de besoins gratuitement, entre guillemets. Voilà. Donc, ça, c'était la première partie, donc le Azure Active Directory B2C Service, qui est donc disponible en version préliminaire publique. À noter également, donc la troisième grosse annonce, c'est ce qu'on appelle Azure Active Directory B2B. Donc là, cette fois-ci, on est sur du business to business. Et l'idée, en fait, est de simplifier les interconnexions sur des applicatifs entre des organisations différentes. Alors, je vais faire appel à vos souvenirs, Arnaud et Pascal, d'anciens du monde de Windows, et donc vous avez connu les domaines NT4. Hein.
Certes.
Ça ne nous rajeunit pas. Hein.
Eh non, ça ne nous rajeunit pas. Et effectivement, dans les domaines NT4, on pouvait avoir des domaines dits de ressources et des domaines dits de comptes. Donc, dans les ressources, on avait les domaines des ressources, on avait les serveurs avec les applications. Et dans les domaines de comptes, on avait les bases de données Active Directory avec les utilisateurs. Et on pouvait mettre en place des relations entre ces différents domaines, on appelait ça des relations d'approbation, et on avait cette vieille phrase qu'on disait les ressources approuvent les comptes. Donc, c'est-à-dire que ceux qui géraient les applicatifs ne géraient pas forcément les identités et disaient moi je fais confiance à ces identités-là et elles peuvent venir consommer mes services. Il existe à peu près la même chose à l'échelle de l'Internet avec ce qu'on appelle de la fédération d'identité, mais la fédération d'identité nécessite d'avoir des serveurs sur site avec des services configurés, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, des fois, quand on a une grosse organisation et qu'on veut donner, par exemple, accès à ses ressources, à ses applications, à des identités provenant d'autres structures ou de petites organisations, du coup, ça devient assez compliqué à mettre en œuvre. Et ben, l'idée, en fait, d'Azure Active Directory B2B, c'est de s'appuyer en fait sur Azure Active Directory que les entreprises ont déjà, parce qu'elles ont des comptes Office 365, ou Intune, ou autres, donc elles ont déjà de l'Azure Active Directory. C'est simplement en fait d'établir des relations entre deux Azure Active Directory, avec d'un côté des applications qui ont été créées par l'organisation A, et elle va dire, j'approuve les comptes venant de l'organisation B qui est dans le deuxième Azure Active Directory. Donc l'idée c'est ça, c'est d'interconnecter des Azure Active Directory, et de faire des passerelles permettant en fait de faciliter en fait la collaboration et de ne pas avoir à recréer des identités pour des partenaires, par exemple, qui vont venir travailler sur mon applicatif qui est dans mon organisation.
Voilà. Donc ça permet de faire de la fédération sans configurer soi-même les trusts au niveau de serveurs ADFS, etc.
Exactement. Et ça permet en fait de ne pas avoir besoin d'ADFS en fait, sur un des côtés. C'est-à-dire que si, par exemple, on parle à une petite structure qui est une PME qui a 10 postes, ils n'ont pas forcément une infrastructure ADFS. Mais par contre, ils peuvent avoir 10 postes et 10 comptes Office 365, donc ils ont leur Azure Active Directory. Donc, du coup, comme ça, on va faire... je suis la grosse organisation qui fait appel à un petit prestataire. Je lui dis, écoute, tu vas pouvoir accéder à mon application et je vais t'envoyer des invitations. Tu vas me donner la liste des utilisateurs qui ont besoin et automatiquement, ils vont recevoir une liste et ils seront provisionnés avec une approbation. Voilà. Donc c'est vraiment une super bonne nouvelle parce que ça va encore simplifier, accélérer entre guillemets les collaborations inter-entreprises et le partage d'applications sans avoir effectivement à se poser, à gérer du côté des applications la gestion des identités des externes entre guillemets. Voilà. Donc c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Donc Azure Active Directory B2B.
Toujours dans Azure et maintenant dans le domaine de l'automatisation et du scripting, etc. On a annoncé donc la disponibilité de Azure Automation DSC. DSC, on connaît hein, dans le monde de PowerShell et de l'automatisation, etc. Ça permet de faire de la configuration déclarative de systèmes. Par exemple, déclarer qu'on veut sur tel système Windows qu'il y ait tel composant, par exemple le serveur web installé avec tel fichier, etc., etc. De façon déclarative. Donc c'est DSC pour Desired State Configuration. Très utilisé dans le monde du DevOps pour configurer très rapidement des fermes de serveurs, par exemple. DSC fonctionne en deux modes, il y a un mode push et un mode pull. Le mode push, c'est dans le mode dans lequel un script DSC va pousser les configurations DSC vers les nœuds finaux, vers les nœuds qu'on va configurer, les systèmes qu'on va configurer. Et le mode push, c'est un mode contraire, on va configurer les nœuds pour qu'ils aillent se connecter à un serveur pool centralisé sur lequel ils vont récupérer leur configuration pour se configurer eux-mêmes. Et ceci de façon régulière, c'est-à-dire qu'automatiquement, les nœuds vont se tenir à jour avec la configuration. Donc ce qu'on annonce en fait dans Azure Automation DSC, c'est la disponibilité d'un service qui va servir de serveur pool dans Azure. C'est-à-dire que vos VM qu'on va configurer en DSC en mode pool vont pouvoir avoir comme serveur pool le service Azure Automation DSC. Donc ce qui permet d'avoir des serveurs pool hautement disponibles puisqu'ils sont directement dans Azure. Et on va pouvoir configurer de la sorte non seulement des VM qui sont dans Azure, mais également des machines qui sont dans votre data center, qui vont pouvoir se connecter au serveur pool de Azure Automation DSC. Comme ça se passe en HTTPS, il n'y aura pas de souci au niveau trafic, au niveau sécurité, pour tirer nos configurations via Internet de Azure vers vos data centers. Donc je mettrai le pointeur, très intéressant pour Azure Automation DSC. Deuxième nouvelle donc, dans l'automatisation d'Azure, avec Azure PowerShell, donc le module PowerShell pour Azure, qui nous permet d'administrer les ressources Azure, qui évolue. Jusqu'à maintenant, on avait deux modes séparés, qui étaient le mode classique et puis le mode Azure Resource Manager, donc avec une commande qui s'appelait Switch Azure Mode pour passer de l'un à l'autre. Donc cette commande va disparaître dans une version très prochaine de Azure PowerShell. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les deux modes qui vont cohabiter. On va pouvoir utiliser les deux modes à l'intérieur de même script sans être obligé de passer de l'un à l'autre. Les commandes qui étaient pour Azure Resource Manager vont être renommées avec un préfixe qui va être Azure RM. C'est-à-dire qu'au lieu d'une commande du type verbe-azure et puis un nom derrière, on va avoir verbe-azure RM et le nom de l'objet derrière, pour bien séparer tout ce qui est Azure Resource Manager de l'ancien mode. Et ce changement va avoir lieu dans la prochaine version de Azure PowerShell, qui sera distribuée non seulement sous forme de MSI, comme c'est le cas aujourd'hui, mais également dans PowerShell Get. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du Find Module et du Install Module directement depuis PowerShell pour pouvoir installer cette nouvelle version de Azure PowerShell. Donc évolution tout à fait normale, mais assez importante, ça va avoir lieu début octobre, la date n'est pas arrêtée. Dans la documentation sur laquelle je vais vous pointer dans l'article, il est écrit 1er octobre, mais j'ai cru comprendre que ça serait un petit peu après le 1er octobre. Donc très bientôt en tout cas. Autre nouvelle sur Azure VM Backup qui est « Generally Available ».
Yes, alors c'est Azure VM Backup pour les VM en mode IaaS hein, qui ont évolué. Donc globalement, on l'avait en preview depuis plusieurs mois et puis ben maintenant ça y est, c'est bon, c'est fini, c'est live, c'est prêt pour la prod. Pas grand chose comme nouveauté à l'occasion de cette mise en GA, à part plus de scénarios PowerShell supportés. Et puis quelques autres améliorations concernant le monitoring et le troubleshooting, des messages d'erreur un petit peu plus explicites et ce genre de choses. Donc c'est live et c'est plutôt cool.
Et puis je crois Arnaud que tu as une autre nouvelle qui concerne le réseau dans Azure.
Alors là on parle plus du côté client d'Azure comme on peut le connaître si on utilise la plateforme, mais du côté de l'architecture d'Azure, de ce qui est utilisé, avec une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe la semaine dernière, qui est que Microsoft aurait sa propre distribution Linux.
Non.
Donc c'est en fait la seule chose, c'est choquant hein, mais oui bien sûr. Donc derrière en fait ça qui est sorti dans les news, il y a en fait autre chose de un petit peu plus intéressant. Ce contexte de la distribution Linux de Microsoft, en fait, c'est simplement pour être utilisé sur ce qu'on appelle les Azure Cloud Switches. Les Azure Cloud Switches, ben, c'est quoi ? C'est les switches tels qu'on les connaît, hein, les switches matériels qu'on utilise pour faire la commutation des paquets, des machines virtuelles et toute l'infrastructure Azure. Et puis, effectivement, on a développé un certain nombre de composants pour ces switches qui tournent sous Linux. En fait, on tourne un operating system Linux vachement customisé qui permet de faire tourner des switches. Alors, pourquoi on fait ça ? Vous avez sans doute remarqué que on a des mises à jour assez régulières dans les services sur le réseau, dans les services tout court sur Azure. On fait du Software Defined Everything, maintenant du Software Defined Data Center. Sauf que dans le monde du switch, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois que vous avez vu un administrateur réseau mettre à jour le firmware de ses switches.
Il y en a qui ont dû le faire. Je pense que Cisco a eu des problèmes il n'y a pas longtemps avec des firmware qui étaient infectés.
Ouais. Mais en général, dans la prod, le switch, il vient avec sa version d'iOS, si on continue de parler de Cisco, ou selon les différents fabricants, ça porte différents noms. Mais en gros, c'est à peu près jamais mis à jour. Donc ça correspond plus du tout au cycle de fonctionner à l'heure actuelle. Hein. On est en mode DevOps, on release des features toutes les semaines, on les teste, on les met en prod à une vitesse largement accélérée par rapport à ce qu'on faisait par le passé. Et donc du coup, c'est ce qu'on veut faire en fait avec cette histoire de ACS, de Azure Cloud Switch, c'est avoir une plateforme software sur laquelle on peut travailler, faire de la release de code souvent, et puis aussi et surtout, c'est que quand ce code il est en production, on a la possibilité ensuite de s'interagir facilement avec nos infrastructures de monitoring d'Azure pour avoir des informations et puis pour paramétrer les switches en live avec du SDN pour répondre aux besoins. Alors on ne s'est pas contenté de faire ces opérations dans notre coin, on les a aussi publiées dans l'Open Compute Project, hein, auquel on participe déjà par ailleurs assez largement dans d'autres dimensions d'Azure. Et donc l'idée c'est que ces specs sont publiés. Notamment, c'est une partie particulière de l'ACS qui est publiée, qui s'appelle le Switch Abstraction Interface, le SAI. Alors, l'idée du SAI, c'est d'offrir un ensemble d'API communes pour quel que soit le matos qu'on récupère. C'est un switch qu'on a fabriqué nous-mêmes, un switch qu'on a fait faire par les fabricants historiques de switch sur le marché. Mais l'idée du SAI, c'est d'offrir un ensemble d'interfaces juste au-dessus du hardware qui vont permettre de piloter les ASICs, de bien discuter avec les interfaces qui sont présentes sur le switch. Et puis, on va pouvoir donc faire notre composant Microsoft, la distro Linux Microsoft, entre guillemets, qui va venir apporter toute la valeur d'interaction avec le data center Azure, le support des protocoles réseau qu'on a envie de supporter comme BGP, les protocoles de monitoring classiques, les opérations de load balancing et de flooding du switch, les ACL, etc. Donc en fait, c'est ça qu'on a publié, le SAI, qui permet de faire ce joint entre ces deux mondes, entre le monde bas niveau, le hardware et les opérations réseau classiques. Donc ça nous a valu beaucoup de publicité, comme quoi effectivement, oui, on avait une distribution Linux, mais un petit peu plus précisément, voilà, c'est ça qui se passe.
Les gens ont oublié que Microsoft avait un temps un Linux aussi. Est-ce que vous vous rappelez du nom ?
On avait un Unix.
C'était pas un Unix, pardon, excuse-moi, attends pour moi, Pascal. Qui s'appelait donc Xenix.
Xenix, ouais.
Voilà. Pareil, ça ne nous rejoignait pas non plus, hein.
Non, mais c'est marrant que l'informatique est un éternel recommencement.
En tout cas, le mystère est éclairci.
Donc c'est assez intéressant, hein, finalement, au-delà de la simple anecdote que Linux, qu'on ait une distro Linux dans Azure. Puis voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. Hein.
Eh ben merci Arnaud.
Avec plaisir.
Sur Office 365, maintenant, on a quelques petites nouvelles. Vous avez peut-être remarqué que Office 2016 était arrivé. Donc cool. Voilà, vous le testez peut-être depuis déjà plusieurs mois, donc rien de nouveau pour ceux qui le testaient déjà.
Pas mal de fonctionnalités cool, hein, selon les différents logiciels. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une petite fonction, Tell Me, ça s'appelle, où en fait, on n'a plus besoin de chercher dans les menus ce qu'on veut faire, on dit simplement ce qu'on veut faire, et puis après, c'est une espèce de super aide machin, qui va détecter ce que tu veux faire, en fait, et qui va essayer de te guider sur les opérations que tu es en train de faire. Après, il y a aussi Smart Lookup qui est assez cool. Bon, c'est juste une aide un petit peu contextuelle quand on est dans un document Word et on tape un mot et magie, on se rend compte qu'on ne sait pas ce que le mot veut dire. Et bien, on peut cliquer sur le mot et puis on va avoir directement des insights sur le mot, sur ce que ça veut dire, des liens sur Internet et un petit peu plus d'infos. Donc quelques petits trucs comme ça. Sur Word aussi, moi ce que j'aime bien notamment, c'est l'édition, la coédition en live au caractère près. Donc on est en train de travailler à plusieurs sur un doc qui est hébergé sur un SharePoint. Et bien on va avoir Pascal en train de taper en live et puis tous les autres collaborateurs en train de bosser sur le document. C'est assez sympa.
Donc comme on est en train de faire là sur OneNote par exemple.
Absolument, donc c'est présent dans Word maintenant au mot près aussi, caractère près pardon. Au niveau de l'user experience, on a mis des nouvelles couleurs, on peut avoir un office avec des couleurs sombres, et puis comme j'ai fait moi avec des étoiles, et puis des petites fleurs, hein, le thème bisounours. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a mis d'autre? Aussi, c'est plus facile de partager les documents. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un petit bouton share en haut à droite, par exemple, dans Word. Et puis, on peut inviter directement des gens à collaborer sur le document. Alors, ça peut être des gens à l'intérieur de l'organisation, ça peut être des gens à l'extérieur de l'organisation aussi, hein, pour peu qu'ils aient accès au SharePoint, évidemment. Donc, quelques petits trucs comme ça. Bon, je vous ai cité en gros, hein, ce qui me venait en tête. Après, je ne sais pas si vous avez d'autres choses qui vous frappent. Hein.
Je ne sais pas, il y a le client Skype for Business.
Ah oui, aussi, ouais.
À part ça, effectivement, non.
Non, moi, j'avoue qu'en fait, la transition s'est passée tellement de manière facile, en fait. Mm-hmm. Je suis passé de l'ancienne version 2013 à 2016 par upgrade. Et en fait, non, honnêtement, visuellement, j'ai pas été choqué. Je trouve ça rigolo que la barre, effectivement, est un petit peu colorée en haut. Mais pour être utilisateur, on va dire, standard de la solution, où je passe mon temps principalement dans Outlook et PowerPoint, j'ai pas vu trop de différences qui m'ont, entre guillemets, qui m'ont choqué. Non, en fait, pour moi, c'était vraiment naturel. Quelques petits trucs, effectivement, qui changent, mais c'est pas.
Je crois que c'est un peu l'idée, hein, c'est offrir l'innovation sans être trop disruptif, du moins dans l'expérience utilisateur.
Ben écoute, ça a marché, hein, parce que du coup, j'ai pas été disrupté.
Eh bien, si t'es pas disrupté, c'est plutôt pas mal. Tant qu'on parle d'Office, hein, on va vous parler d'un autre truc assez cool. Vous avez peut-être vu passer, ça s'appelle le Azure RMS Document Tracking. Qui était disponible uniquement à l'intérieur des États-Unis depuis ces quelques derniers mois et qui est maintenant disponible pour l'ensemble de la planète. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? D'abord, Azure RMS, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est la gestion des droits numériques sur les documents et la plateforme qui permet d'effectuer ces opérations est hébergée sur Azure. La gestion des droits numériques sur les documents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je partage un document avec quelqu'un à l'intérieur de l'organisation et je veux que ce document ne sorte pas de l'organisation. Eh bien, je vais définir des droits numériques dessus qui vont faire que ce document, en fait, concrètement, il va être chiffré. Donc la protection du document va rester avec le document et puis on va avoir dans ce document un manifeste qui décrira ce que l'utilisateur auquel je partage le document a le droit de faire. Par exemple, je pourrais dire il a le droit de voir le document, mais il n'a pas le droit de l'imprimer, il n'a pas le droit de le forwarder non plus à quelqu'un d'autre à l'extérieur de l'organisation. De toute façon, même s'il le forward, il sera chiffré et il n'y aura pas de clé qui sera délivrée pour l'utilisateur qui veut consommer l'information. Donc c'est ça, cette idée, c'est que à chaque fois que quelqu'un va ouvrir le document, on va pouvoir le protéger et on pourra même aller jusqu'à révoquer l'accès au document immédiatement. Donc assez intéressant à l'heure où on veut se protéger de certaines fuites qui peuvent exister à l'extérieur. Imaginons si on a un constructeur automobile par exemple, ou tout autre type d'activité, on pourra protéger ce genre de choses. L'idée RMS a beaucoup évolué, c'est qu'on peut protéger maintenant tout type de document. On peut protéger un PDF, on peut protéger à peu près n'importe quoi avec une application qui est disponible sur l'ensemble des plateformes mobiles du marché. Donc ça peut être sous Windows, ça va être sous Windows en tant que téléphone, maintenant, enfin, à l'heure actuelle, on a encore la dichotomie entre les deux versions. Ça va être aussi évidemment sur Android et ça va être aussi sur les plateformes comme iPad. Donc, on a la possibilité d'ouvrir les documents, de protéger ces documents sur ces différentes plateformes. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que avec le document tracking, on a la possibilité de voir que, effectivement, j'ai partagé une information avec tel utilisateur à tel moment, et je vais pouvoir contrôler à quel moment l'utilisateur de destination a accédé à l'information. Et donc, j'aurai même une vision avec une carte du monde où je pourrais voir que le document, il a été ouvert par tel utilisateur à tel moment, et il a été ouvert avec succès. Mais je pourrais aussi voir toutes les tentatives illégitimes d'accès aux documents, tous les access denied, et voir leur provenance géographique. Donc ça, c'est assez sympathique comme fonctionnalité pour voir un petit peu ce qui arrive à un document qu'on vient d'éditer et qui serait top confidentiel, super critique. Plutôt cool comme fonctionnalité, non ?
Ouais, et tout ça sur une carte du monde. Hein ?
Tout ça sur une carte du monde. Pas encore en 3D, mais peut-être un jour ça arrivera.
Petite news connexe sur Office 365, c'est qu'il y a, comme dans Azure, hein, le portail évolue. On avait le portail classique, et bien on va avoir le portail en preview, qui est plus moderne, plus coloré, plus productif, plus efficace, etc., etc. Si vous faites partie des clients qui ont accès à ce portail preview, vous le verrez apparaître comme une option dans la barre haute, dans la barre supérieure de votre portail actuel, la possibilité d'aller voir ce nouveau portail en preview, comme exactement même principe que dans Azure. Voilà pour Office 365. On va terminer avec deux petites choses. Donc d'abord, deux articles que j'ai commis cette semaine sur ce que j'appellerais, sur une bonne suggestion d'Estan, les petits Windows. Donc il y a les petits Windows serveurs et les petits Windows clients.
Rien à voir avec les petits filous. Hein.
Les petits Windows serveurs, c'est Nano Server. Donc Nano Server, c'est une version spécifique de Windows Server 2016, donc qui sera disponible en même temps que Windows Server 2016. Aujourd'hui, on peut le tester depuis la TP2, je crois, depuis la Technical Preview 2, hein, si je ne m'abuse. Là, j'ai fait un test avec la Technical Preview 3. Donc, contrairement au mode core et graphique de Windows Server, c'est un mode d'installation, certes, mais qui ne se choisit pas lors de l'installation normale de Windows Server 2016. Il faut aller à l'intérieur de l'ISO de la distribution de Windows Server 2016, aller dans un répertoire qui s'appelle Nano Server pour récupérer cette image WIM qui va nous permettre de générer notre Nano Server. Donc un Nano Server, c'est quoi ? C'est un serveur Windows Server 2016 très réduit, encore plus réduit qu'un Windows Server Core. Très réduit en nombre de process, donc en termes d'exposition au risque, en termes de nombre de reboots dus au patch mensuel, etc. Il n'y a pas d'Explorer, il n'y a pas d'Internet Explorer évidemment, mais il y a beaucoup moins de process que même un serveur core normal. Je ne sais plus, Arnaud, tu avais des statistiques que tu avais inclus dans nos slides à propos de la différence justement entre les nombres de reboots.
Ouais, c'était assez drastique, hein. C'était des statistiques qui étaient faites par rapport à l'année 2014, comparaison du nombre de reboots qui auraient été nécessaires si Nano existait, et puis on était sur de l'ordre, bah, effectivement, sur un serveur full, allez, un reboot par mois pour les patchs critiques, et puis sur le Nano serveur, il était estimé qu'il y aurait eu besoin de 3 reboots sur tout le long de l'année.
Voilà, ce qui est phénoménal. Donc l'usage principal de Nano serveurs, ce sont des serveurs qui sont très critiques en termes de reboot. Notamment, on peut penser notamment aux serveurs qui hébergent des machines virtuelles, donc des serveurs Hyper-V, ou des containers, donc les futurs serveurs de containers, les containers host qui vont héberger les containers Windows. Donc plus il y a besoin de densité et de disponibilité du serveur, plus le Nano serveur va être intéressant. Donc petit article qui vous montre comment tester très rapidement un nano serveur installé en tant que machine virtuelle dans un Hyper-V. C'est très rapide à faire et vous pouvez tester ça avec le petit article que j'ai écrit. Deuxième petit Windows client, c'est ce qu'on appelle Windows IoT Core, Windows 10 IoT Core. Donc c'est une version de Windows 10 spécifique pour IoT. Donc on a sorti plusieurs versions pour différentes cartes de type Internet of Things, IoT. J'ai testé cette semaine celle qui est faite pour les Raspberry Pi 2. Uh-huh. Et donc j'ai documenté un petit peu mon test très rapide de Windows IoT Core. Ce qui m'intéressait notamment, c'est un tout petit détail qui m'intéressait de voir dans Windows IoT. C'est au cours de mes lectures sur le sujet, sur Windows IoT, j'avais cru comprendre qu'il existait un serveur SSH à l'intérieur de Windows IoT pour permettre de se connecter depuis n'importe quel système sur notre Windows IoT qui tourne sur un Raspberry Pi 2.
Alors, verdict ?
Et donc, verdict, c'est le cas. C'est effectivement
ils
le
l'ont
cas.
Fait.
Donc, en fait, quand on exécute un Windows IoT Core là, sur un Raspberry Pi, il y a un serveur FTP, un serveur SSH, un accès en serveur de fichiers sur le port 445, et puis un serveur web sur le port 8080 pour pouvoir avoir une administration complète de la machine, notamment l'administration qui va consister à uploader quand même des applications, parce que c'est quand même le but, hein. Donc directement depuis votre Visual Studio, vous allez pouvoir envoyer des applications IoT sur la machine en question. Donc le petit serveur SSH bah, permet de faire également tout ça avec, avec une ligne de commande spécifique, accessible en SSH. Quand on se connecte en SSH avec administrateur et puis le mot de passe par défaut, qui est password avec un at et un 0, le password classique. Et puis on a accès en fait à un CMD. On n'a pas un PowerShell, un shell PowerShell, mais un CMD.exe qui s'exécute dessus. Et on a accès à des commandes spécifiques à Windows IoT. C'était tout bête comme test, mais c'était très intéressant à faire. Et je l'ai documenté ça sur mon blog, si ça vous intéresse.
Et donc concrètement, tu as fait quoi aujourd'hui avec ton Windows IoT, à part avoir fait du SSH dessus ?
Bah, j'ai pas déployé d'application dessus, donc j'ai rien fait d'utile avec. Je me suis simplement persuadé que ça fonctionnait et qu'on pouvait y accéder très facilement par le réseau. Alors aujourd'hui, par le réseau, justement, petit détail, hein, on peut y accéder par le réseau Ethernet, avec la prise Ethernet de la machine. Le problème, c'est que on n'a pas un moyen simple de connaître l'adresse IP de la machine une fois qu'elle a démarré. Donc si on a la chance d'avoir un écran HDMI branché dessus, il affiche l'adresse IP, et donc c'est facile de s'y connecter par la suite. Sinon, il y a un outil qui est fourni avec, et j'ai mis la procédure dans l'article associé, il y a un outil qui est fourni qui s'appelle Windows IoT Core Watcher, et quand on lance cet outil sur un Windows 10 sur le même réseau, il va chercher sur le réseau et puis il va nous afficher les différentes machines.
Est-ce que tu crois que ça passe par un groupe de multicast spécial IPv6 pour réaliser l'opération, Pascal ?
Bah, je te suggère de vérifier ça.
La prochaine fois que... Ça me paraît tout à fait intéressant, ça.
La prochaine fois qu'on se voit en live, on pourra vérifier ça.
Eh ben, on va sortir les traceurs réseau et puis ça va être la fête.
Et donc, la bonne nouvelle également à propos de Windows IoT, hein, c'est que pour l'installer et juste comme ça tester très rapidement, on n'est pas obligé, quand on est en IT, d'installer Visual Studio et tous ces trucs-là. Contrairement à ce qu'on peut croire en lisant les docs, on peut y aller vraiment très simplement. Mais, évidemment, si vous voulez déployer des applis, il va falloir quand même sortir Visual Studio et puis déployer nos applis. Ça, c'est tout à fait naturel. Voilà.
Cool.
Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait raconter aujourd'hui. Stan, Arnaud, d'autres choses à rajouter ?
Peut-être des gens veulent en savoir plus sur Windows 10 et sur Azure IaaS, en particulier dans le IaaS V2. Peut-être faire un petit peu de promo,
mais oui.
De promo tapageuse pour dire qu'on sera effectivement le 29, donc très très prochainement, 29 septembre, à Lille.
À Lille, tout à fait.
Et puis, la semaine encore après, eh bien, on sera à Toulouse, si je ne me trompe.
Mais avant Toulouse, jeudi 1er octobre, on est à Lyon.
Absolument. Mmh. Le 6 octobre à Toulouse et le 8 octobre à Nantes.
Exactement. Donc les deux prochaines semaines vont être bien occupées.
Donc ce qu'on appelle les Tech Days Camp, hein, si vous voulez chercher sur votre moteur préféré ou sur c'est référencé sur nos différents blogs, on sera ravis de vous y retrouver.
Alors si vous êtes à Lille le 29, donc mardi, en sortant de notre présentation à 18h, vous pouvez aller sur le web pour regarder en direct un autre événement qui se passe, je pense qu'il se passe aux États-Unis. Je n'ai pas regardé où c'était géographiquement.
Les États-Unis d'Amérique.
Aux États-Unis d'Amérique, ouais.
Alors, c'est un presque live. Hein. Les sessions ont été enregistrées déjà pour un grand nombre d'entre elles et seront diffusées à partir de ce moment-là, pour vous donner un petit peu les coulisses.
D'accord. Et donc, à partir de 18h française, parce que c'est 9h là-bas, ça s'appelle AzureCon, et l'URL, je mettrai l'URL, mais c'est azure.microsoft.com/AzureCon. Mm. Voilà, donc c'est une conférence dédiée à Azure, avec tous les aspects qu'on peut imaginer sur Azure.
Ouais, si vous n'avez pas eu assez de 8 heures d'IT Camp, vous pouvez reprendre 8 heures de AzureCon le 29 septembre.
Exactement.
C'est une bonne nouvelle.
Ça peut avoir de l'intérêt parce qu'il va y avoir des annonces.
Bien sûr.
Dans cet événement. Ce n'est pas uniquement de la formation technique, il y a des annonces. Il y a du keynote et des annonces.
Cool.
Donc ne loupez pas ça. Je crois qu'on arrive à la fin de cette partie. Donc Stanislas, Arnaud, merci beaucoup.
Et merci à toi.
Merci à toi, Pascal.
On se retrouve très bientôt. Et puis bonne journée, bon week-end à tous.
Salut.
Au revoir.
Compromis, donc je suis maintenant avec Arnaud Jumelé. Bonjour Arnaud.
Salut Pascal.
Donc Arnaud, spécialiste sécurité dans la direction technique et sécurité de Microsoft France. On a déjà eu l'occasion, il n'y a pas si longtemps que ça, de discuter sur un épisode précédent du podcast. On avait parlé, si je me souviens bien, de Windows Hello, Microsoft Passport. Oh.
De Device Guard peut-être. C'était au mois d'avril, si ma mémoire est bonne.
Ouais, avec Jean-Yves Grasset.
Oui, tout à fait.
Et donc, si je t'ai proposé de venir discuter avec nous, et d'abord, je te remercie d'avoir accepté aussi rapidement.
C'était très cool. De rien, écoute, c'est un plaisir.
C'est parce que j'ai remarqué que tu avais publié cette semaine un white paper, un livre blanc. D'ailleurs, disons un white paper, puisque tu l'as écrit en anglais. Hein,
pour nous... Oui, c'est ça. C'est un document.
Il y a une raison.
Une quarantaine de pages.
Si près. C'est en anglais, il y a une raison.
La raison, c'est que. Oui, il y en a une. C'est que je suis parti en fait 2 semaines au mois de juillet directement sur le campus à Redmond et c'était une collaboration en fait d'être sur place pour travailler avec les équipes et donc dont l'équipe qui s'occupe de la sécurité de Windows et leur apporter en fait un travail qui était une forme de documentation en fait sur un sujet qui n'avait pas été encore couvert, hein, qui est le contrôle en fait, de l'état de santé d'un ordinateur ou d'un poste mobile. Donc, c'est une fonctionnalité que tu as peut-être découverte qui s'appelle Device Health Attestation.
Donc, si je traduis le titre, effectivement, hein, c'est protéger des assets, des biens.
Des biens.
en contrôlant la santé d'appareils Windows 10. Donc c'est le contrôle de l'état de santé de Windows 10 en gros.
Oui, c'est ça.
Alors, le sujet du document.
C'est l'objet du document. Alors ça peut rappeler aussi dans une certaine mesure ce qu'on avait proposé dans le passé à travers NAP.
Tout à fait.
Le Network Access Protection. Et l'idée, c'est vrai que c'est un peu la même idée en fait. Hein, c'est de contrôler, de vérifier en fait si le poste a un état de santé correct et de vérifier surtout si les mécanismes de sécurité sont toujours activés et en place. Donc c'est le sujet du document et ça a un certain intérêt en fait pour les entreprises, c'est que ça va pouvoir leur permettre de réagir en cas de compromission. Et typiquement, c'est si jamais en fait il y avait un malware qui arrivait à désactiver la sécurité, à ce moment-là, l'idée, c'est en fait de révoquer l'accès au système d'information et d'avoir quelque chose d'assez dynamique, en fait.
D'accord. Donc, depuis quelques temps, hein, maintenant, on parle beaucoup de bring your own device, de scénarios un petit peu ouverts dans lesquels on autorise les utilisateurs à utiliser un peu le périphérique qu'ils veulent pour accéder aux données de l'entreprise, mais en échange, on leur demande un certain contrôle de l'appareil par l'entreprise, un certain niveau de contrôle en fonction de ce qu'on peut faire sur les appareils, qu'ils soient non Microsoft ou qu'ils soient Windows, etc. Donc on est dans ce cadre-là, on est dans ce cadre de donnant-donnant, de politique de sécurité, de...
Parfaitement. On est parfaitement dans ce cadre. Alors c'est quelque chose qui s'applique également, comme tu le sais, Windows 10 maintenant, c'est le même code qui va équiper également les téléphones. Donc tout ce qui va être Windows Phone.
Tout à fait, ouais.
Et on aura la même fonctionnalité, en fait, sur ces appareils. Le Device Health Attestation va être également disponible sur les téléphones.
Donc téléphone, tablette, PC, même combat.
Même combat. Alors il y a un prérequis, hein, parce que ça fonctionne... ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait proposer avec NAP sur, on va dire, le niveau de garantie de ce qui est rapporté, hein, ça va fonctionner avec le module TPM qui équipe maintenant, on va dire, la plupart des PC professionnels, hein, et également les téléphones, les Windows Phone. Et le prérequis, c'est d'avoir ce module TPM, mais en version 2.0. Donc c'est là où le prérequis est un petit peu plus fort et un peu restrictif.
Donc ce prérequis, il est pour cette fonctionnalité précise qui est le Device Health Attestation. Attestation de santé de l'appareil.
C'est ça.
D'accord.
Exactement.
le fait qu'on s'appuie sur le matériel a quand même une raison forte, qui est que seule une solution matérielle peut faire qu'on s'assure que l'attestation en question est valide.
Exactement.
Parce que c'est le TPM qui a signé l'attestation.
Oui, c'est ça. En fait, quand l'ordinateur va démarrer, il y a un ensemble de mesures qui vont être faites. On va vérifier, par exemple, si le démarrage sécurisé est activé. On va regarder si la partie device guard est utilisée. On va également enregistrer la politique device guard qui a été utilisée, et ainsi de suite. Et toutes ces informations vont être signées numériquement par le module TPM. Et tout ceci va être envoyé à un serveur. Donc Microsoft opère un service cloud qui va permettre d'aller vérifier les attestations. Et en fait, on va vérifier si les attestations sont signées par un vrai TPM.
Donc tu as parlé de device guard.
C'est un très 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 bon complément aux antivirus traditionnels. L'objectif, en fait, c'est de lutter contre les malwares, les logiciels malveillants. Et ça va permettre de donner le contrôle aux entreprises pour décider quel code doit pouvoir s'exécuter sur une machine.
D'accord.
Donc ça va permettre de verrouiller un ordinateur et d'avoir un contrôle vraiment complet sur ce qui s'exécute. Là où ça va plus loin qu'AppLocker, c'est que on va pouvoir même contrôler les pilotes de périphériques qui vont se charger.
Donc ce qui est nouveau dans Device Guard, c'est que le code qui effectue ce contrôle, donc le fameux KMCI, le Kernel Mode Code Integrity.
Oui, c'est ça, le Code Integrity. Ce qui est nouveau, en fait, c'est qu'on va en plus pouvoir l'héberger dans ce mode utilisateur isolé. Donc en quelques mots, on a la possibilité maintenant, en fait, de faire tourner un secure kernel. Donc on va utiliser une technologie d'hyperviseur qui va en fait lancer Windows, et à côté il y a un mini Windows, on va dire, qui s'exécute et qui va exécuter en fait que le code de confiance, et on va en fait placer dans ce compartiment les choses les plus sensibles. Alors ça va être par exemple tout ce qui est credential, les HNTLM et les tickets Kerberos par exemple. Donc ça, c'est credential guard. Mais on va également pouvoir placer le code qui vérifie les logiciels.
D'où les deux composants, donc credential guard et device guard.
C'est ça.
Qui bénéficient de cette isolation.
Ouais, l'isolation matérielle, et qui est disponible sur la plupart des... Alors ça, ces deux fonctionnalités, c'est des fonctionnalités qui sont réservées aux éditions entreprises de Windows 10.
Tout à fait, ouais. Ouais.
Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que ça fonctionne avec de la virtualisation. Et donc, il faut avoir un processeur compatible. Or, aujourd'hui, c'est le cas sur les machines qui sont assez récentes, qui ont 3, 4 ans maximum, peut-être 3 ans environ, qui peuvent faire tourner un hyperviseur. Mais c'est quelque chose qui se veut être très efficace pour lutter contre les malwares.
Donc, de la virtualisation plus un TPM 2.0, donc il y a quelques contraintes matérielles si on veut bénéficier de toutes ces fonctionnalités aussi.
Alors pour Credential Guard et Device Guard, il n'y a pas de prérequis sur la version 2.0 du TPM.
D'accord, c'est uniquement pour l'attestation.
C'est uniquement pour Credential Guard, voilà, qui a besoin d'un TPM 1.2 ou 2.0. Et pour l'attestation, tu as tout à fait raison, c'est un TPM 2.0.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont incluses dans l'attestation de bonne santé d'un Windows 10?
Il y a d'autres choses. Il y a également, si un antivirus a été chargé, on va mesurer ce qu'on appelle ELAM. Tu sais, ça a été introduit en Windows 8. C'est le Early Launch Anti-Malware. Et ça, on va également le mesurer. On va mesurer si... il y a un antivirus qui s'est chargé en tout début de démarrage. Donc ça, c'est également un élément qu'on va prendre en compte. Et puis, on va également mesurer si BitLocker est activé ou non.
Donc, on a tout pour contrôler que l'OS qu'on exécute s'exécute correctement. Et le bon OS n'a pas été compromis. Que les
Exactement. C'est un peu similaire à détecter si un device est jailbreaké ou non. On D'accord. peut également le voir de cette façon.
On parlait de Device Guard. Device Guard, il faut savoir quand même que c'est une fonctionnalité qui ne s'adresse pas à tous les postes.
Non, c'est vrai qu'on va plutôt le réserver dans un premier temps à des postes d'administrateur. Hein. On va plus le réserver à des appareils fixes, comme, je ne sais pas, de type kiosque.
Ouais.
Voilà.
Des postes très sensibles. Ouais.
On va le réserver déjà à des postes qui sont assez sensibles et puis en plus qui n'évoluent pas toutes les semaines. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des nouveaux logiciels qui sont déployés en permanence. Des choses qui sont assez maîtrisées, là, Device Guard fait sens.
Ok. Donc là, on a fait le portrait du principe de l'attestation, etc. Maintenant, comment ça va se passer concrètement une fois que ces fonctionnalités seront disponibles concrètement pour nos clients?
Bah, comment ça va se passer en fait, la grande idée, parce que l'objectif de tout ça, ça va être de contrôler l'accès à des applications cloud ou à des données. Et dans le système, comme on le voit, en fait, on va avoir plusieurs briques. Donc, il y aura bien entendu un appareil Windows 10, mais il y aura également Azure Active Directory qui va jouer un rôle central. Parce que comme tu le sais, en fait, Azure Active Directory va pouvoir contenir des appareils. Tu vas pouvoir enregistrer également ton appareil dans Azure Active Directory. Et il y a certains attributs qui sont rajoutés. Et les attributs sont est-ce que mon device est en bon état de santé? Est-ce que mon device est conforme à la politique de sécurité? Et là, l'intégration de tous ces éléments vont faire que quand ton poste est en bon état de santé, l'attribut dans Azure Active Directory va être mis à jour, hein, tout simplement. Et le composant qui va mettre à jour tout ça, ça va être un outil de type MDM. Donc MDM pour Mobile Device Management, ça peut être Microsoft Intune par exemple, mais ça peut être également d'autres MDM compatibles, comme AirWatch ou d'autres, qui vont pouvoir en fait jouer ce rôle de dire si l'appareil est conforme ou non, ou est-ce qu'il est en bon état de santé, et d'informer tout simplement l'annuaire cloud sur l'état de santé des appareils.
D'accord. Ok. Donc
il y a plusieurs composants en fait qui sont en œuvre.
Ok. Donc le device définit son état de santé, le remonte d'une façon sécurisée parce que c'est un TPM qui l'a signé, validé cette attestation.
Il va le remonter en fait au serveur MDM.
Ça passe par le serveur MDM.
Il sera pas capable tout seul de savoir si c'est un TPM qui a fait la signature numérique. Il va en fait envoyer ce blob à un service Microsoft qui s'appelle Device Health Attestation Services, qui lui est capable de... a en fait une base de connaissances de tous les modules TPM qui existent aujourd'hui et qui est capable en fait de vérifier la signature pour répondre en retour si la signature provient bien d'un module TPM, que c'est bien un élément matériel, et pour également redonner le résultat des assertions. On a fait un gros travail en fait de notre côté chez Microsoft, c'est-à-dire qu'on opère une plateforme qui a une base de connaissances assez importante, hein, c'est-à-dire qu'on est allé voir les différents fabricants de TPM pour leur demander quels sont les certificats qui sont inclus dans leur puce, afin qu'on puisse en fait tout simplement les utiliser pour vérifier l'authenticité de ces modules.
D'accord, c'est clair. Une fois que c'est vérifié, donc ça va dans l'Azure Active Directory.
Une fois que c'est vérifié, le module TPM a le résultat de l'état de santé du poste et il va pouvoir vérifier la conformité, hein, parce que peut-être que une entreprise va pouvoir dire si BitLocker n'est pas activé, c'est pas grave, ou au contraire, si c'est grave, c'est ça l'état de santé d'un poste. En fait, le MDM, il a un rôle important à jouer parce qu'il va pouvoir stocker la politique de l'entreprise. On va pouvoir définir c'est quoi un poste en bon état de santé, et à partir de là, il va pouvoir prendre la décision de dire oui ou non le poste est dans un état conforme.
Ok, donc on fait le lien maintenant avec l'action finale qui est le contrôle d'accès, l'accès conditionnel qu'on connaît déjà dans Intune avec un accès conditionnel basé sur le fait qu'on a fait un workplace join ou un Azure AD join sur l'appareil. En plus, on aura donc comme paramètre supplémentaire du choix de l'accès conditionnel cette attestation de santé.
Exactement, dans Intune, là, ça va arriver là, assez rapidement dans l'interface. La possibilité en fait de dire que on va contrôler l'état de santé des postes Windows 10 et alors ça peut être intéressant par exemple pour des services comme Office 365 pour dire que l'accès au mail est possible que depuis un appareil en bonne santé par exemple,
ce qui exclurait par exemple les appareils non Windows.
Non, parce que on a également des fonctionnalités similaires pour d'autres appareils. Alors ça n'a pas le même nom. C'est plutôt de dire est-ce que l'appareil iOS ou Android est jailbreaké ou non. Là où ça fait une grosse différence avec Windows 10, c'est que on a beaucoup plus de garanties d'assurance qu'avec Windows 10 le poste soit en bon état de santé, hein, parce que là on va utiliser le matériel qui va l'attester, hein, ce qui n'est pas le cas sur un Android ou un iOS. Quand on fait de la détection de jailbreak, c'est une détection qui est faite de façon logicielle, parce qu'on peut, faute de mieux, on peut pas aller plus loin. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est pas le niveau d'assurance le plus haut, en tout cas ce sera pas le même qu'avec un Windows 10, hein.
C'est clair,
donc c'est le petit différenciateur aussi.
Ouais, tout à fait. Bon, je crois que on a décrit l'ensemble du processus
dans ton document. Pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus, il y a le document qui est en ligne,
ça fait une quarantaine de pages. Je mets le pointeur évidemment sur l'article associé à cet épisode. On a une date, une idée de période à laquelle Intune sera adapté pour faire fonctionner ça, ou c'est trop tôt pour le dire?
Ça devrait tomber sur le mois de novembre à peu près, je pense.
Ah d'accord, c'est très bientôt donc. D'accord.
Aucun
rapport avec la TH2, ça marchera avec la version actuelle de Windows.
C'est pas loin à mon avis, ça doit coïncider. Hein. Je pense que l'équipe Intune souhaite être prêt pour le lancement de la TH2. Et d'avoir en fait des policies Windows 10 prêtes à l'emploi dans l'interface graphique d'Intune. Donc ça devrait coïncider, je pense.
Mais ça fonctionnera quand même avec la version de Windows 10 actuelle ?
Oui, tout à fait.
Donc les entreprises qui sont par exemple en CBB ou en LTSB.
Et... Oui, parce que les fonctionnalités sont déjà de base en fait dans Windows 10.
D'accord.
Il manquait, on va dire, la partie serveur pour. Pour manipuler ce type d'information, mais
donc Intune est le serveur d'attestation.
Intune principalement, c'est ça qui manque, ou un outil MDM compatible.
D'accord.
Parce que ce qui est bien dans cette architecture, c'est que ça c'est ouvert pour fonctionner avec d'autres outils qu'Intune. Il y a d'ailleurs d'autres partenaires qui sont en train de travailler sur l'intégration. Donc il y a des chances que le fait qu'Intune soit le premier à proposer la fonctionnalité, ça devrait faire accélérer les choses.
Bon, merci beaucoup Arnaud.
Merci à toi Pascal, hein. C'était avec plaisir d'échanger sur ce sujet.
Toujours, la sécurité c'est toujours notre dada, hein, en commun.
C'est vrai.
On y revient toujours, donc c'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu aussi rapidement à mon appel. Et puis je te souhaite un très bon week-end et à très bientôt.
Très bon week-end, merci.